Et il y a de grandes choses qui se préparent sur le plan immobilier. Beaucoup de gens parlent d'un ralentissement, d'un retour à la normale progressif. Mais sait-on jamais? Peut-être que la folie reviendra et il faut se préparer. Il faut être prêt à vendre, à acheter. Il y a peut-être des opportunités. On va parler un peu de ça aujourd'hui, Mélanie.
Ben oui, Jeffrey. Puis moi, je pense, ma prédiction n'a rien de scientifique, mais je crois qu'on va revivre la même folie immobilière qu'on a vécue l'hiver dernier. Et ce matin, l'objectif là pour les gens qui nous écoutent, là, moi, ce que j'entends de la part des gens, c'est ben je veux vendre pour l'été prochain, je vais me trouver quelque chose, je vais commencer à chercher en janvier. Erreur. Commencer maintenant. Là, je m'adresse aux gens, par exemple, qui retiennent leur maison. Ils veulent pas la mettre en vente parce qu'ils savent pas où ils vont aller. Mais commencez donc à chercher avant, parce que vous le savez que l'hiver prochain, ça va être l'enfer encore. Vous allez avoir de la misère. Vous allez vouloir vendre, mais vous aurez pas trouvé votre plan B. Moi, je dis à tout le monde qui nous écoute ce matin et qui est dans la position de vendre sa maison d'ici l'an prochain, d'ici l'été prochain, c'est de planifier tout de suite votre plan B. Il y a des projets en location, il y a des constructions qui ont lieu en ce moment, des projets qui vont être prêts l'hiver prochain, au printemps prochain. Prenez-vous d'avance, réservez quelque chose que vous aimez pendant que c'est pas tout le monde qui y va en même temps. Alors, ça vous donne un meilleur choix, une certaine sécurité, et une fois que vous aurez réservé ce plan-là pour telle date, ben à ce moment-là, vous allez pouvoir vendre votre maison en toute quiétude. Et ça va aider tout le monde parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire encore sur le marché. Ça commence à sortir, là. On voit un petit peu de maison, un petit peu plus, mais encore là, c'est très limité comme choix. Et les acheteurs, Jeffrey, sont encore au rendez-vous. Il y en a moins dans certaines braquettes de prix, mais c'est encore la folie sur certaines maisons.
Ben, justement, parle-nous-en de ça, parce que quand on entend « la folie s'estompe », ça veut dire quoi exactement? Il y a encore un peu de folie.
Il y a énormément de folie dans certaines catégories de marché.
Bon.
Exemple, pour les premiers acheteurs avec qui je compatis ce matin, c'est pas facile. Les budgets de moins de 400 000 $ c'est la folie. Donc, quand on parle d'une maison à 400 000 $ c'est sûr que c'est la folie encore. On voit des 24 promesses d'achat. Et si on s'en va, par exemple, le 5 à 7, là, de 500 à 700 000, il y en a un petit peu moins de folie. Il y en a, mais quand la maison est affichée quand même un petit peu à un bas prix, selon moi. Là. T'sais, des fois, là, on n'ose pas encore monter les prix parce que les prix de l'hiver dernier étaient gonflés par la demande.
Oui.
Ben, moindrement qu'on monte ces prix-là un petit peu, il y a moins de demande. Ça fait en sorte que ça, s'il n'y a quand même pas 25 promesses d'achat sur chaque maison, il peut y en avoir 2-3. Donc, il y a une différence dans le marché. Puis les maisons à 1 million, ben là, ça va quand même vite aussi. Les maisons, là, à un fort budget, en haut de 800 000, il y a une catégorie de gens pour ça. Ces gens-là achètent encore en ce moment, se préparent. Mais entre les deux, je dirais que les gens ont encore peur. Par exemple, s'ils voient une maison à 550 000, ben qu'elle se termine à 650. Tu sais, les gens ont encore cette perception-là de la surenchère à 100 000 de plus. Ça peut arriver encore, mais moi, ce que j'ai vu récemment, c'était beaucoup plus bas que ça, beaucoup moins de visites, en fait. On n'a pas 70 visites dans une propriété si elle est affichée au juste prix par rapport au comparable des derniers mois. Et ça, c'est très important. C'est sûr, si on se fait au comparable de l'an dernier, avant que ça ce soit la folie, ben là, c'est sûr que ça va partir en vrille et peu importe la maison. Donc, une maison qui vaut 550, normalement, si on l'affiche à 499, c'est sûr que ça va être la folie. Donc, les gens commencent à savoir aussi combien ça vaut, combien ça s'est vendu. Donc, il y a encore une certaine folie dans certaines sphères du marché.
Et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi, pour toutes sortes de raisons, à accéder à leur propriété.
Oui.
Il y a eu une folie. Tout le monde voulait une maison en même temps, mieux se confiner, meilleure qualité de vie, peu de maisons sur le marché, etc., etc. Mais souvenons-nous de ça, sondage léger, 40% des Québécois veulent acheter une maison d'ici 2 ans.
Oui.
C'est presque la moitié des Québécois. Puis en même temps, il y a presque la moitié des Québécois le printemps dernier qui ont soit abdiqué, repoussé à plus tard. Donc, quand tu dis ça va revenir, puis il y a les vacances d'été aussi, ça c'est un facteur, le monde est en vacances. Donc ça pourrait revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Selon moi, c'est pas... peut-être, ça va revenir. Donc, quand exactement? Mais c'est sûr que ça va revenir.
Puis de toute façon, Mélanie, il y a des saisons, tu sais, tu me disais ça en meeting, là. Il y a des saisons en immobilier où, pandémie ou pas, là, c'est plus important. Il y a plus d'achats, plus de transactions. C'est quand ces moments-là, charnières?
Normalement, les gens cherchent à déménager l'été. Quand, par exemple, surtout, bon, il y a toujours des exceptions, mais par exemple, vous avez deux enfants à l'école, vous voulez pas les changer d'école en cours d'année scolaire pour pas perturber leur parcours, ben c'est sûr qu'il y a plus d'achalandage pour déménager l'été. Ou au printemps, du moins, il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent qu'ils ont des familles qui veulent pas déménager avant au moins le 15 juin, là. Tu sais, juste pour, parce que s'ils ont à voyager les enfants dans un autre quartier, pour aller à l'école, ben, ils veulent pas le faire pendant deux mois. Tu sais, il faut que ça se passe vers la fin de l'année scolaire. C'est pour ça que l'été est aussi occupé. Mais il y a aussi le congé de Noël qui peut aussi être, possible pour les gens qui ont des enfants à l'école. Des fois, ils vont les changer d'institution en milieu d'année scolaire, pas en plein mois d'octobre ou en plein mois de février, mais plutôt début janvier. Alors, il y a des gens qui ont des familles qui veulent acheter et qui vont peut-être se concentrer sur ces dates-là ou déménager autour de Noël, avant Noël ou début janvier parce qu'ils sont en congé. Donc, c'est pratico-pratique de faire ça comme ça.
Puis après ça, tu as le mois de juillet, le déménagement. Oui. Donc, c'est pas comme une voiture, tu achètes ça au printemps. À l'immobilier, il y a des moments en particulier dans l'année.
Qui sont plus forts.
Puis c'est ça. Donc là, on vous demande, êtes-vous prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vendre, à acheter? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Puis Mélanie va vous donner des trucs. Racontez-nous ce que vous vivez. Est-ce que vous avez décroché pour là revenir éventuellement ou tentez-vous votre chance en ce moment parce que ça s'est estompé un peu? On veut vous entendre là-dessus. 514-790-9850. Pierre est là. Salut Pierre!
Oui, bonjour. C'est pour l'information, s'il vous plaît. Moi, je voudrais savoir, est-il préférable de faire affaire avec un agent d'immeuble ou un courtier d'immeuble?
Bien, un courtier immobilier, c'est un agent. Donc, l'agent d'immeuble, c'est l'ancien terme. Maintenant, okay. On dit courtier immobilier. Donc, c'est la même personne, Pierre.
OK. Une autre petite question, s'il vous plaît.
Oui.
Moi, j'ai acheté une maison il y a 3 ans.
Oui.
C'est une maison neuve. Elle a 5 ans seulement. Est évalué à 254 000, mais c'est un clé en main. Combien je pourrais la mettre en vente sur le marché?
Oh là, c'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce que j'ai pas toutes les informations. Puis je vais, c'est bien que vous m'ouvriez la porte comme ça, Pierre, parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
Oui.
Quand le courtier évalue votre propriété, premièrement, l'évaluation municipale est pratiquement jamais à jour par rapport au marché. Donc, dans plusieurs municipalités, Pierre, on voit un prix 100 000 au-dessus, même plus là, que l'évaluation.
Chance, on paierait encore plus de taxes.
Ouais. C'est ça. C'est un bon côté. Dans le fond, c'est évalué plus bas, ça coûte moins cher de taxes. Donc, première chose. Et un courtier immobilier a accès au prix vendu de votre secteur dans la même catégorie de propriété. Donc, ce qu'on regarde, c'est le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, la superficie, la grandeur de votre terrain, l'année de construction. Donc, il y a beaucoup de critères qui entrent en ligne de compte. C'est pourquoi, moi, en ce moment, à la radio comme ça, je peux pas vous dire à quel prix vous pourriez afficher votre propriété parce que ça demande un travail de recherche. Mais ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que je pense pas que vous allez la vendre 254 000 au prix d'évaluation municipale.
Non.
Puis c'est intéressant, les clés en main, les gens cherchent ça. Puis vous êtes dans quelle région, Pierre?
À Saint-Jean-sur-Richelieu.
Bon, un secteur très, très populaire, qui est très convoité. Alors, Pierre, moi, c'est sûr que... Puis quel type de maison? Juste, ça peut peut-être aider d'autres personnes aussi.
Un petit bungalow.
Combien de chambres?
J'ai 2 chambres à coucher.
2 chambres? Est-ce qu'il y a d'autres chambres au sous-sol?
Non.
Est-ce qu'il y a une possibilité d'en faire aussi?
Non, mais c'est une, le sous-sol, ça s'ouvre une cave de service.
Oui.
OK, parfait. Donc, c'est un plein pied, pas de sous-sol.
C'est, mais en arrière, c'est vraiment beaucoup de fleurs. Puis j'ai refait la cour en asphalte. Je vous dis, il n'y a rien, absolument rien à faire. On rentre, puis on installe les meubles.
Donc, moi, je pense, Pierre, vous avez la typique maison avec l'air ouverte, là, salon, cuisine, salle à manger.
Oui.
Vous avez la salle de bain, vous avez votre salle de lavage, puis vos 2 chambres à coucher.
Puis j'ai un grand solarium en arrière avec 3 grandes portes patio.
Ça, c'est un plus. Les gens apprécient beaucoup les solariums. Et la clientèle qui va aller chez vous, Pierre, souvent, ça va être des gens qui veulent réduire la taille de leur maison, des gens qui veulent pas aller en condo, qui veulent être confortables à la maison, puis votre format de maison convient à des gens, par exemple, professionnels, semi-retraités ou les enfants qui sont plus grands, qui sont partis de la maison, ou des premiers acheteurs aussi. Donc, je pense que vous avez une grosse clientèle pour votre type de maison clé en main. Donc, Pierre, n'hésitez pas à faire appel à un ou des courtiers. Moi, je dis souvent, appelez-en 2-3, là, comme ça, vous allez avoir vraiment une idée aussi avec qui vous voulez travailler éventuellement. Mais bonne chance, Pierre, parce que vous êtes dans le bon moment pour vendre et Saint-Jean-sur-Richelieu va très bien.
Ben oui, ils ont fait une pub là, il y a une couple d'années, là, à 20 minutes de Montréal.
Ben ça, ça dépend. Là.
Et non, mais c'est vrai que c'est bien situé. C'est on a l'impression qu'il y a moins de trafic sur la rive sud, c'est populaire. Là. Ben, les gens sont tannés de l'autoroute des Laurentides puis le
ça,
trafic.
Ça, c'est vrai. Mais là, ils vont découvrir le tunnel. Là. Moi, j'étais dedans hier soir puis je peux vous dire c'est ça.
C'est pour un petit bout de temps.
Oui.
On a un autre Pierre. Salut, Pierre.
Oui, bonjour.
On vous écoute, mon cher.
Bon, écoutez, ça serait pour renseignement. Je voudrais savoir, je suis allé voir un promoteur immobilier qui développe un ensemble de plusieurs condos. Et disons que c'est un condo que je voudrais acheter pour mon fils qui serait comme locataire.
Oui.
Maintenant là, dans la déclaration de copropriété, il faudrait que cet immeuble-là serait prêt seulement qu'en 2024. Fait que moi, ça m'intéresse pas du tout. Fait que là, je me suis retourné vers de l'usager qui font partie du même ensemble. C'est 5-6 immeubles.
Oui.
Fait que le vendeur du projet neuf, l'immeuble neuf, m'a dit que dans la déclaration de copropriété, il est indiqué qu'il n'y a pas de location, mais il me dit que ça se détournait dans le sens que si l'acte de vente est fait 99% pour un acheteur, qui serait moi, puis 1% pour mon fils, est-ce que quelque chose comme ça, vous avez déjà entendu parler de ça, est-ce que ça se fait?
Moi, j'ai vu souvent, Pierre, des gens qui n'ont pas le droit de louer sauf à un membre très proche de la famille. Donc ça sera à vérifier. Oui, c'est sûr que si votre fils est sur l'acte de vente, il est en partie propriétaire et en théorie, il aurait le droit d'habiter l'immeuble. Donc il faut qu'il soit copropriétaire à ce moment-là. Mais comme j'ai pas les mots à mots là de votre déclaration de copropriété, c'est que souvent ce qu'on voit, soit qu'on peut pas louer du tout. OK, ce qui semble être le cas. Parfois, on peut louer à un membre très proche de la famille s'il n'y a pas de problème avec les autres copropriétaires. Et il y a toutes sortes de types de locations. Ça se décline en plusieurs possibilités. Donc, vous, dans votre cas, c'est clair que si votre fils est propriétaire avec vous, ben ça justifie en quelque sorte, oui, vous contournez la déclaration de copropriété, mais il est propriétaire en partie. Donc,
puis dans ce cas-là, vu que c'est votre fils, vous pouvez vous entendre aussi les deux ensemble, là, sans que ce soit officiel, là, si vous avez une bonne entente, là, comme c'est votre fils. Mais merci, Pierre. La question que je vais avoir pour toi, puis on fera des recherches, on fera une émission sur les condos.
Oui.
Est-ce que quand c'est impossible de louer dans les règlements du syndicat, est-ce que ça se revend moins bien? Est-ce que la valeur est affectée?
Oui. Je peux te répondre à ça tout de suite parce que j'ai eu un exemple il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est sûr que les gens qui achètent un condo, ils veulent parfois pour habiter maintenant, mais ils aiment ça avoir la possibilité. Tu sais, un jour, là, tu dis, moi, je vais acheter une maison, là, mais je veux louer mon condo, garder mon investissement. Oui. C'est clair que ça change la donne. D'où l'importance de bien lire la déclaration de copropriété, poser ces questions-là. Les questions qui reviennent le plus souvent en passant dans les condos, c'est est-ce qu'on a le droit de louer? De quelle façon? Et est-ce qu'on a le droit aux animaux?
Oui.
Donc, c'est principalement les deux critères. Donc, si en partant, vous pensez le garder 2 ans, vous achetez une maison, le louer après, c'est votre critère principal. Même si vous adorez le condo, vous ne pourrez jamais le louer.
Financièrement, c'est plus de liberté, plus de flexibilité. Il arrive quelque chose, tu peux le louer, t'en aller dans plus petit ou moins cher. Non, c'était un des points qu'on avait vérifié quand on a acheté le plan.
Oui.
Plan dans lequel on va vivre bientôt. On s'en va visiter le plan pour la première fois le 20 septembre.
Oh,
je t'en reparlerai.
Mais oui.
Ça fait un an que je regarde le plan. Je le regarde.
C'est long, hein?
Là, j'essaie de m'imaginer. Et le 20 septembre, on va vérifier l'inspecter notre condo pour la première fois. Donc, on parle d'immobilier ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à foncer dans le marché, mesdames, messieurs? 514-790-9850, 1-866-790-9850.